Alors, vous pouvez chercher dans vos Bibles, dans Hébreux chapitre 3, c'est là où nous allons commencer. Et c'est un passage qui est assez simple, mais qui a beaucoup d'histoire derrière lui. Et nous allons faire un petit voyage dans le temps pour mieux comprendre ce texte qui a lieu en trois temps. Il y aura donc, peut-être en même quatre, on pourrait dire, il y a le temps donc, quand Paul écrit cela, ou pas Paul, mais l'auteur écrit cela. Il y a le temps de Psaume 95 qui est largement cité dans ce texte. Et puis, il y a les événements de l'Exode qui sont là. Donc, on va voir qu'il y a ces différentes choses qui vont ensemble et ça sera utile d'avoir une Bible avec vous. Je commence avec l'essentiel. Et si vous vous souvenez de rien d'autre, alors souvenez-vous de cela. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Nous commençons notre voyage dans le temps par une visite au désert de Sin, connu aussi comme Sinaï. Et c'est l'histoire d'un pèlerinage à travers le désert vers la terre promise de Canaan. Alors, il faut savoir que au plein milieu de ce désert, Israël avait déjà vécu une histoire avec Dieu. Israël avait reçu en Égypte un dirigeant appelé par Dieu, un dirigeant qui s'appelait Moïse. Israël avait vu les 10 plaies et le pouvoir de Yahvé, le roi, sur le royaume terrestre et puissant de l'Égypte. Israël avait quitté l'esclavage pendant la nuit en dépouillant leurs anciens maîtres. Et vous vous souvenez qu'ils étaient heureux de donner des choses à Israël pour que lui, il parte. Israël avait traversé la mer des gens, pieds secs, et avait vu la destruction des chariots égyptiens et de l'armée égyptienne quand les murailles d'eau sont retombées sur eux. Israël avait célébré la victoire que Dieu avait donnée sur les Égyptiens au rythme du tambourin de Myriam et des femmes d'Israël. Israël avait dégusté les eaux de Mara, changées à une eau saine et rafraîchissante, peut-être pas pétillante, mais quand même de bonne eau à travers l'obéissance de Moïse. Israël a reçu le pain du ciel, la manne, 6 jours par semaine pour ne pas mourir de faim, mais d'être nourri d'un pain qui venait du ciel. Israël avait reçu de la viande, l'écaille qui ont couvert le camp. Et donc ils avaient tout ce qu'il fallait pour remanger. À Sinaï, Israël a reçu la loi et a entendu la voix de Dieu sur la montagne, ont vu la tempête et les éclairs, et ont ressenti les tremblements de terre. Et c'est au rocher d'Horeb, après avoir écouté les plaintes du peuple et les menaces contre Moïse et Aaron, que Dieu a donné de l'eau à Israël. Comme Moïse a pris son bâton et a frappé le rocher, et de l'eau est sortie. C'était le même bâton que Dieu lui avait donné pour séparer les eaux de la mer. Et quelques mois plus tard, la rivière Jourdain devant lui, le pays de Canaan à l'autre côté, la terre promise, là, il y a 10 sur 12 espions qui reviennent pour dire au peuple que la conquête du pays de Canaan était impossible et qu'il fallait se débarrasser de Moïse, il fallait éliminer Aaron et avoir un autre chef qui allait ramener le peuple au pays de l'esclavage qui est l'Égypte. Et Moïse et Aaron tombent face contre terre devant toute l'assemblée. Et Josué et Caleb déchirent leurs vêtements et exhortent leurs frères, et ceci c'est dans Nombre chapitre 14. Ils disent, si l'Éternel nous est favorable, Il nous fera entrer dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays découlant du lait et du miel. Seulement, ne soyez pas rebelles contre l'Éternel et ne craignez pas les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez pas. Et bon, vous savez la suite de l'histoire. Israël n'a pas obéi à Dieu et tous les adultes, tous ceux qui avaient 20 ans et plus, sont morts dans le désert de Sinaï pendant un voyage qui a duré 38 ans, jusqu'à ce que le dernier des rebelles soit mort et enterré dans les sables du désert. Ça, c'est le contexte que nous avons de notre texte. Okay? C'est l'histoire qui est l'histoire du peuple de Dieu, quelques mille ans avant que cette lettre a été écrite, qui a quelque chose à dire à ces chrétiens du premier siècle. Et donc, je vais juste lire le texte de Hébreux chapitre 3, les versets 6 à 19. Voici ce qui dit le texte. « Mais Christ l'est comme un fils sur la maison. Nous sommes sa maison si nous retenons fermement jusqu'à la fin l'assurance et l'espérance dont nous nous glorifions. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, et ici, il va citer le psaume 95. « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, au jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver et virent mes œuvres pendant 40 ans. C'est pourquoi je fus indigné contre cette génération et je dis, le cœur s'égare toujours, ils n'ont pas connu mes voies, j'ai donc juré dans ma colère, ils n'entreront certainement pas dans mon repos. Prenez donc garde, frères, que personne parmi vous n'ait un cœur méchant et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne se s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous avons été rendus participants du Christ, si du moins nous retenons fermement jusqu'à la fin notre assurance première, pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Quels furent, en effet, ceux qui provoquèrent Dieu après l'avoir entendu, sinon tous ceux qui étaient sortis de l'Égypte sous la conduite de Moïse? Et contre qui fut-il indigné 40 ans durant, sinon contre ceux qui péchèrent et dont les cadavres tombèrent dans le désert? Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, si ce n'est à ceux qui avaient désobéi? Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. » Bon, comme je vous ai déjà dit dans ce texte, Israël a eu ses opportunités de répondre avec amour et obéissance envers Dieu. Il a entendu la parole de Dieu, Sinaï, etc. Et donc le message qui est donné, c'est aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Ils ont vu tous les miracles, ils ont contemplé toutes les œuvres de Dieu. Et voici ce qu'il dit le texte, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver et virent mes œuvres pendant 40 ans. Mais Israël a décidé de rejeter Dieu. Par leur incrédulité, nous lisons au verset 19, par une désobéissance à tout ce qu'il avait dit au verset 18, parce qu'ils n'ont pas connu les voies de Dieu. Ils n'ont pas connu, c'est-à-dire ils n'ont pas suivi cette voie de Dieu. Parce qu'il s'est endurci le cœur, nous lisons au verset 8 et 15. Parce qu'il s'est égaré au verset 10. Et parce qu'il a tenté Dieu par sa désobéissance. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Tous les adultes qui ont quitté l'Égypte sont morts dans le désert, il dit au verset 17. Tous ceux qui avaient vu ce que Dieu avait fait ne sont pas arrivés au pays de repos que Dieu leur avait promis à cause de leur incrédulité. Et ils ne sont pas entrés dans le repos qui leur a été destiné. Dieu avait fait appel à Israël de quitter l'Égypte pour aller à un seul lieu, un lieu de repos qui était Canaan. Et à cause de leur désobéissance, ils ne sont pas arrivés à leur but. Parfois, vous savez, nous avons la tendance de lire les Écritures et de nous poser la question, mais comment est-ce qu'ils ont pu être aussi bêtes? Comment est-ce qu'ils ont fait comme ils ont fait? S'ils ont vu toutes ces choses, comment sont-ils arrivés? Comment est-il arrivé à ne pas croire, à ne pas aller en avant? Comment est-ce possible de voir toute l'œuvre de Dieu, de voir toute sa puissance, de voir sa rédemption, de recevoir le salut, d'être dirigé par un feu pendant la nuit et nué pendant le jour? Comment sont-ils arrivés donc à douter, à désobéir, à s'endurcir à tel point que Dieu leur a refusé du repos? On regarde et on dit, mais comment est-ce possible que eux, ils ont été aussi bêtes? Et nos frères qui ont reçu cette lettre, c'est-à-dire il y a 2000 ans, qui ont reçu cette lettre des Hébreux, n'avaient-ils pas entendu l'Évangile? N'avaient-ils pas cru au Seigneur? N'avaient-ils pas reçu le pardon? N'avaient-ils pas reçu l'Esprit de Dieu? N'avaient-ils pas donc goûté que le Seigneur était bon? N'avaient-ils pas vécu avec la joie de leur salut? Mais trois fois, vous avez vu dans votre texte, trois fois, l'écrivain dit ceci en citant le passage de l'Ancien Testament. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Trois fois, il le dit. Bon, qui sont ces gens qui ont fait ce pèlerinage? Au chapitre 3, le verset 12, en citant le psaume 95, c'est un avertissement qui est adressé aux frères. Et l'auteur a un message pour l'Église. C'est l'Église qui est en pèlerinage. Comme Israël a quitté l'Égypte et qui devait aller vers une terre promise, de la même façon, le peuple de Dieu est en route maintenant, pèlerinage, pour aller vers le repos que Dieu a promis à son peuple. C'est une raison pour laquelle l'auteur utilise l'exemple d'Israël, car il est le peuple de Dieu. Et par analogie, et grâce aux lettres des apôtres, nous savons que l'Église aussi est connue comme le peuple de Dieu. L'Église juive et l'Église non-juive, ensemble, forment le peuple de Dieu. Esclaves ou libres, un seul peuple, sœurs et frères, un seul peuple. Tous sont le peuple de Dieu dans son identité même en Christ Jésus. Et Israël, dans le désert, correspond à l'Église qui vit des persécutions et des difficultés importantes, mais qui vont quelque part. Mais vers où? Vers où? Les chrétiens sont en route, comme Israël après l'Exode. C'est un chemin que nous suivons. Parfois, nous chantons « Je poursuis mon chemin, aujourd'hui ou demain, il se pourrait que mon Seigneur au ciel m'appelle. » Peut-être vous ne connaissez pas. Mais vous avez entendu quand même « Tout au long de mon voyage, je veux Jésus tout près de moi. » Le peuple va quelque part. Nous sommes en pèlerinage. Nous sommes en train de passer de d'où Dieu nous a appelés vers l'endroit où nous allons. Vous pouvez dire le ciel ou le paradis ou la vie avec Dieu, mais nous allons vers un vrai repos que Dieu prépare pour nous. Le chrétien est en mouvement vers quelque part. Israël allait vers la terre promise. Et l'Église, nous allons vers un repos, vers le repos qui a été préparé pour elle. Et quoi? Quelle est la promesse? Bon, la promesse au chapitre 3, le verset 12, que personne parmi vous n'ait un cœur méchant et incrédule au point de... quel est le problème? Le problème, c'est au chapitre 3, le verset 12, que personne parmi vous n'ait un cœur méchant et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Il parle à des chrétiens, mais il y a cette mise en garde. Qu'on n'ait pas un cœur qui est méchant, qui va nous détourner. Et voici le plus grave de tous les péchés connus des hommes. c'est de se détourner du Dieu vivant. C'est de se détourner de Dieu. Car c'est pour cette raison que trois fois l'auteur se répète, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. C'est une question de vie et de mort. Nous devons tenir bon. Nous devons nous accrocher à notre foi. Nous devons le faire, sinon nous glissons vers un cœur méchant et rebelle. C'est comme cela qu'il part. Et quand devons-nous agir? Bon, chaque fois, dans notre texte, il dit quoi? Aujourd'hui. Aujourd'hui. Si vous entendez sa voix. La vérité que nous devons comprendre est que le moment de changer notre vie et de se repentir de nos péchés, le moment, c'est maintenant. C'est le moment de changer nos vies et nous protéger de l'incrédulité. C'est aujourd'hui. Et parfois, nous pouvons nous poser la question, Dieu va-t-il me pardonner? Il semble quasi certain parfois que nous avons fait tellement de mal dans notre vie que est-ce qu'il va vraiment nous pardonner? Et chaque fois, les Écritures disent, aujourd'hui, si vous entendez ma voix, donc vous pouvez tourner vers moi. Il prépare notre demain pour nous aujourd'hui. Et pour Dieu, ce qui est intéressant, pour Dieu, tous les jours, c'est aujourd'hui. Il vit dans l'éternité du maintenant. Et le moment qui compte pour lui est notre maintenant, notre fidélité de maintenant jusqu'à la fin. Et donc, n'importe quelle situation dans laquelle nous nous trouvons, si nous tournons vers lui maintenant, alors il est là pour nous mener vers ce repos. Et comment arriver à notre destination? Regardez le verset 14. Regardez ce qu'il dit. Il dit, « Si du moins nous retenons fermement jusqu'à la fin notre assurance première. » C'est une responsabilité personnelle de protéger notre cœur en l'examinant et en cherchant à obéir chaque jour à sa vérité. Il dit de retenir fermement jusqu'à la fin notre assurance première. Il faut qu'on aille jusqu'au bout. Il faut qu'on soit fidèle pour traverser cette rivière de Jourdain pour arriver à notre repos. C'est une responsabilité personnelle, mais vous avez vu le contexte de ce verset 14? Regardez le verset 12. Et je crois que ceci est important et une des raisons pour lesquelles nous sommes là aujourd'hui. Prenez donc garde, frères, que personne parmi vous n'ait un cœur méchant et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Vous voyez ce qu'il dit? Il dit, exhortez-vous chaque jour. Là, on parle de la communauté. Là, on parle des frères et des sœurs qui, ensemble, font ce qui est nécessaire pour qu'on tienne bon jusqu'au bout. Le besoin de l'Église et des frères et sœurs qui nous rappellent, et que nous ayons des frères et des sœurs qui nous rappellent de l'histoire de Jésus, qui nous inspirent par leur exemple, qui nous soutiennent par leur prière et qui nous exhortent à travers l'encouragement et la correction par la parole de Dieu. Le but, c'est de croire, de ne pas tomber dans l'incrédulité, car sans la foi, nous ne pouvons pas entrer dans le repos que Dieu a préparé pour nous. Et donc, c'est essentiel de voir qu'il y a une responsabilité individuelle, mais il y a une responsabilité de l'Église. La responsabilité individuelle, c'est de retenir fermement jusqu'à la fin notre assurance première. C'est d'aller jusqu'au bout. Mais comme Église, c'est de nous exhorter chaque jour afin que nos cœurs ne s'endurcissent pas par la séduction du péché. On a besoin les uns des autres. On n'arrive pas seul, dit-il. Bon, pourquoi faire comme ceci? Nous voyons dans notre texte, il dit, nous sommes sa maison. Et quand on parle de la maison de Dieu, on est en train de parler du temple de Dieu. Nous sommes, le peuple de Dieu, c'est où il habite. Et nous appartenons à Dieu. Et il s'est établi sur nous. Et cela change tout. Et il dit parce que nous avons été rendus, au verset 14, nous avons été rendus participants du Christ. Participants du Christ. Je ne sais pas si vous vous souvenez du premier chapitre, mais au premier chapitre, il dit que le Fils a participé à notre humanité pleinement. Et maintenant, en Christ, nous participons dans la divinité. Nous faisons partie de ce que c'est en Christ, c'est-à-dire nous devenons participants à lui. Le verset dit « car nous avons été rendus participants du Christ ». Et comme le Fils de Dieu est devenu homme et participe à la chair, c'est-à-dire à tout ce qui est humain, sauf le péché, nous sommes devenus participants du Christ. Tout ce que cela veut dire, je ne suis pas sûr ce que cela veut dire, mais c'est une bonne chose que nous participons à lui. Et puis, nous faisons ce que nous faisons pour ne pas entendre Dieu dire quelque chose. Ils n'entreront certainement pas dans mon repos. Le peuple de l'Ancien Testament, c'est ça qu'ils ont entendu. Vous n'y entrerez pas. Mais j'aimerais bien que vous sachiez qu'après 38 ans, dans le désert, le peuple est revenu au Jourdain. Et là, à l'autre côté, était le pays promis. C'était la terre promise de Canaan. Et il y avait quelqu'un qui était le dirigeant du peuple qui s'appelait Josué. Josué qui a mené le peuple dans un repos que Dieu avait préparé pour eux. N'est-il pas intéressant que le mot Josué, en hébreu, c'est le mot pour Jésus, Yeshua, et que lui aussi, il va nous amener, si nous sommes fidèles, dans un repos qui est éternel. Nous sommes en chemin, nous suivons notre route, nous sommes remplis de reconnaissance pour tout ce que Dieu fait pour nous. Nous le louons, nous l'adorons, nous nous réjouissons de la grâce que nous avons reçue en Dieu et nous prenons garde, nous regardons nos cœurs, car notre but est d'arriver à notre vrai repos en Jésus-Christ. Et aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, mais venez à celui qui vous offre le repos.